Alors, j'ai envie de dire en tout premier, comme premier point, je ne vais pas fondamentalement le développer, ce premier point, mais il me semble important, quand on s'est préparé à vous donner cet enseignement, de le mentionner, c'est développer déjà notre confiance en Dieu. Développer notre confiance en Dieu. Je pense à plusieurs textes et j'aimerais simplement vous citer certains de ces textes qui peuvent nous encourager dans le fait de développer notre confiance. Dieu est un Dieu de parole et c'est un Dieu qui tient parole. Donc, de le savoir, ça va nous aider à développer cette confiance. Je pense à une petite histoire que j'ai entendue une fois. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Mais j'ai beaucoup enseigné à des enfants et des enfants aiment les histoires et je réalise que nous, les adultes, on est des grands enfants qui aiment aussi les histoires. Et l'histoire, c'était une enfant de 7-8 ans qui était dans un avion qui l'emmenait d'un pays à l'autre. Et puis, à un moment donné, l'avion a passé par des grosses turbulences et qui ont vraiment secoué cet avion. Et la petite fille a eu peur. Et puis, l'hôtesse qui passait dans le couloir de l'avion s'est arrêtée, puis la petite fille a dit « Qui c'est qui conduit l'avion ?» Et puis l'hôtesse a répondu « C'est ton papa. » Elle dit « Ah, mais alors c'est bien, tout va bien, elle s'est endormie. » Mais une histoire qui souligne que plus on a confiance en notre papa céleste, plus on pourra dormir même dans les turbulences. Dieu n'a pas promis que la vie sera un long fleuve tranquille, ça c'est le film qui même ne le dit pas. Mais dans les turbulences, il nous promet de nous porter et il promet de nous garder. Et pour ça, c'est important qu'on développe notre confiance en lui. Or, pour développer notre confiance en lui, eh bien, plongeons-nous dans la parole. Et j'ai à cœur de vous lire 2-3 versets. Laissez-les résonner dans votre cœur, écoutez-les avec votre cœur pour que Dieu fasse déjà maintenant son œuvre de développer cette confiance en lui. Dans Philippiens 1, 6, Paul nous dit « Je suis persuadé, Philippiens 1, 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et là on peut penser à tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » On a parlé du retour de Jésus, ben voilà. Ce jour-là, cette œuvre sera rendue parfaite. Ça peut développer notre confiance. Je vous lis Jérémie 1, 12. C'est l'Éternel qui parle à Jérémie, puis qui lui dit « Que vois-tu, Jérémie ?» Et il répond « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu est un Dieu de parole qui exécute ses promesses. C'est Jérémie 1, 12. Ésaïe 61, 11. « Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » On en vit des prémices, mais il y a la promesse que ça va s'étendre, ce salut et cette louange, à toutes les nations. Une petite dernière, on pourrait continuer longtemps, hein, mais Habacuc 2, verset 3. Déjà verset 2. Écris la prophétie. La prophétie, c'est ce que Dieu nous dit, en fait. Écris, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et on sait que quand Dieu dit deux fois les choses, déjà quand il les dit une, c'est suffisant. Mais quand il les dit deux fois, alors c'est que c'est vraiment arrêté. Hein. Habacuc 2, je vous ai lu les versets 2 et 3. Alors on peut reprendre, on parlait de méditation ce matin. on peut reprendre ces textes, parce que c'est Dieu qui développe notre foi. Mais en même temps, on a une toute petite contribution qu'il nous demande de faire, parce qu'on n'est pas des robots. Il veut faire de nous des êtres qui participent. Et notre petite contribution, c'est de nous laisser imprégner de la parole et puis de la méditer. Parce que, nous dit l'Ecclésiaste, elle ne retourne pas à lui sans effet et sans accomplir son dessein. Voilà comment, très concrètement, on peut contribuer une toute petite partie à ce que cette confiance soit développée. Deuxième point, où je vais m'y arrêter un peu plus longuement, deuxième point de cet enseignement, c'est comment la foi naît-elle et comment elle se développe. Vous connaissez tous Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Alors ça vient de sa parole écrite, mais ça vient aussi de cette parole orale qui peut nous donner d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu ce matin. En fait, ça vient chaque fois qu'on sait que Dieu nous adresse une parole directement. Ben, la foi, elle naît. Je savais, quand j'ai reçu cette parole que je vous disais ce matin, de ce texte où cette femme a cassé le vase de parfum aux pieds de Jésus, et j'ai entendu cette question, est-ce que tu es prête à me donner une année de salaire? Et puis que j'ai répondu, oui Seigneur, je savais que tout le reste allait suivre. Je savais que le directeur me donnerait une année de congé, je savais que je pourrais remettre mon appartement sans problème, je savais qu'il y aurait une place pour moi dans cette école de disciples, je savais. J'ai eu un obstacle sur la route. C'est que, bon, j'avais 25 ans déjà à ce moment-là, j'avais mon propre appartement donc, et je suis allée voir mes parents un jour pour leur annoncer que j'allais prendre une année de congé et que j'allais me former avec Jeunesse en Mission. Puis, mon papa avait 51 ans de plus que moi, je suis l'aînée, donc vous voyez, il s'est marié sur le tard. C'était pas un deuxième mariage, c'était son premier. Ma maman avait 22 ans de moins. Oui, parce qu'à 51 ans, pour avoir un enfant, c'est un peu difficile. Et en fait, elle ne voulait pas que je parte, mais elle ne pouvait pas me le dire. Alors elle m'a dit, mais tu sais, pense que ton papa, il est âgé, ton papa, il a besoin de toi, puis s'il lui arrive quelque chose. Et je n'étais pas établie comme je le suis aujourd'hui. Donc ça m'a ébranlée, mais il y avait cette parole de ce vase qui avait été cassé, et je savais que c'était juste. Mais j'avais quand même un problème. J'étais sûre que c'était juste, puis en même temps, j'avais de la peine à évacuer cette parole de ma maman. Alors je crois que le Seigneur m'a donné une idée. Je n'ai pas pris un temps d'écoute. Je n'avais pas encore reçu l'enseignement sur l'écoute de Dieu, parce que je n'avais pas fait l'école de disciples. Mais je suis sûre alors que cette parole, sur le moment je ne l'ai pas réalisée, mais cette parole était inspirée. J'ai eu cette pensée, va voir le médecin de famille. Je suis allée voir le médecin de famille, donc il connaissait mon père, qui me connaissait forcément. Puis je lui ai expliqué l'histoire sobrement. Puis il me regarde, un peu comme un bon grand-papa. Puis il me dit, en me regardant dans les yeux, mais Catherine, parce que je voulais faire cette école de disciples en Angleterre. Enfin, je voulais. Je crois que c'était vraiment juste. Et il me dit, mais Catherine, Londres est à 1h15 de Genève. J'avais compris. Je suis partie. Donc, la foi, elle se développe par le fait que Dieu a dit quelque chose de précis et de clair. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des obstacles, mais quand on sait qu'on sait qu'on sait que c'est Dieu, eh bien, les obstacles, ils nous donnent de les traverser. Donc, si on n'est pas sûr, c'est que Dieu ne va pas nous appuyer la tête en nous disant « Ah, mais t'as passé la foi. » Si on n'est pas sûr, demandons. Demandons une confirmation, comme disait Christian. Demandons une conviction. Et il va nous la donner. Il est un père, il va nous donner cela. Et ça va continuer de développer notre foi. Donc, le point de départ, c'est de connaître la parole. Si on veut que notre foi soit développée, ben, plongeons-nous dans la parole. Elle est notre nourriture. Mettons-la en pratique. Connaître la parole, rappelez-vous ce que je vous disais ce matin, connaître, c'est expérimenter au sens hébraïque. Expérimenter. Et en expérimentant, ben, notre foi augmente. Parce que Dieu honore notre foi, donc on voit des fruits, on grandit, et comme ça, d'étape en étape, notre foi grandit. Donc au final, il y a un choix à faire. c'est croire ce que Jésus dit, parce qu'au final, je crois en lui. Je ne crois pas en ce qu'il dit de façon aveugle, je crois en ce qu'il dit parce que j'ai commencé à le connaître en tant que personne et je sais qu'il est digne de confiance. J'ai commencé à expérimenter son amour. Hein, c'est comme la petite fille dans l'avion, elle avait expérimenté l'amour de son papa et elle pouvait se rendormir en disant « Ah, mais si c'est papa qui pilote l'avion, il n'y a pas de problème. » Donc c'est ça. Et j'ai envie de dire, notre foi, elle va augmenter dans la mesure où on connaît toujours plus le Père, on connaît toujours plus Jésus. Et plus on le connaît, plus on pourra croire à ce qu'il nous dit personnellement. Les gens qui ont de la peine à croire, c'est les gens dont les proches les ont souvent trahis. Ils ont de la peine à croire. Donc vous voyez qu'au final, la foi, ça n'a rien d'émotionnel. On vend beaucoup de l'émotion maintenant. Si on ne sent pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas sentir la présence de Dieu. C'est lui qui décide des moments où on sent qu'il est là ou pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sent pas qu'il n'est pas là. Et ce n'est pas parce que je ne sens pas quelque chose que je n'ai pas la foi. La foi, c'est vraiment je crois parce que c'est écrit. C'est un don. Absolument. Et c'est un don qu'on peut demander. Si on sent que c'est un peu faible, on peut le demander. Hein, ça rejoint ce qu'on disait aussi ce matin, demandez, vous recevez. Demandons-la. Dieu ne va pas nous reprocher de demander. C'est Manfred Engeli qui, dans son livre Makarios, il parle, il dit que Dieu a tout un vestiaire, d'habits. Parce que dans Colossiens 2 ou 3, il est écrit de se revêtir. Et on peut se revêtir de toutes sortes de choses. Et si vous reprenez le passage, on peut se revêtir de l'amour, on peut se revêtir de la patience, de la joie, de la paix. On peut se revêtir de toutes sortes d'habits. On peut se revêtir de la foi. Donc Dieu ne va pas nous reprocher l'habit qu'on n'a pas. Il sait très bien de quoi nous sommes faits. Par contre, il va nous dire, mais pourquoi tu n'es pas venu dans mon vestiaire qui était gratuit ? Boutique gratuite à l'entrée et à la sortie. Pourquoi tu n'es pas venu ? Donc, il ne s'agit pas de nous condamner nous-mêmes ou nous laisser condamner par ce que les autres peuvent dire, mais il s'agit plutôt de dire, ok Seigneur, moi je reconnais que je n'ai pas cette foi. Alors je viens dans ton vestiaire, je viens revêtir cet habit et je te remercie de me l'accorder. Et finalement, c'est le grand défi que nous avons tous. C'est que notre vieil homme doit mourir et que notre homme nouveau doit continuer de grandir. Ça, c'est aussi une image qui m'a beaucoup aidée et qui fait partie des schémas dont on parlait ce matin. Cette fois-ci, je ne vais pas parler d'une maison, mais de deux maisons. C'est aussi dans le livre Makarios que je vous dis. Deux maisons, dans le sens où, avant notre conversion, on vivait dans une maison. Dans cette maison, c'est nous qui régnions. C'est-à-dire que notre âme était devant. On décide ce qu'on veut faire. Souvent, c'est ce qui nous plaît. Avec des désirs égoïstes aussi, au passage. Mais on dirige notre vie comme on l'entend. On rencontre le Seigneur. On lui demande de venir dans notre vie. Et à ce moment-là, Paul nous dit qu'on devient une nouvelle créature. Ça veut dire que Dieu vient créer une nouvelle maison, mitoyenne à l'ancienne. Mais c'est quelque chose de neuf. Et dans cette maison, c'est Jésus qui règne. Ça veut dire qu'on apprend à être dépendant de lui, à l'écouter, d'où l'importance de reconnaître sa voix, à l'écouter et à être dans cette dépendance et cette obéissance pour entrer dans ses projets à lui. Et ça, c'est un apprentissage, parce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le jour de notre conversion qu'on est à 100% dépendant de Dieu 24 heures sur 24. C'est un début. C'est un début, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et il y a cette tension entre le vieil homme qui est la première maison et qui veut vivre sa vie de façon égoïste, et puis l'homme nouveau qui veut vivre soumis à l'esprit. Et il y a une porte communicante entre les deux, comme ces deux maisons mitoyennes. Il n'y a pas de garage entre deux, ça compte directement comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments et des domaines où on sent qu'on est soumis à l'esprit. Par exemple, pour des grandes décisions, on peut se dire, je demande au Seigneur qu'est-ce qu'il en pense, le choix d'une profession, le choix d'un conjoint. Ma vie est soumise à Dieu pour ces choses-là. Et puis les vacances, je fais ce que je veux. Donc, ça montre bien que c'est progressivement qu'on entre dans cette dépendance de Dieu. Et chaque fois qu'on est dans cette dépendance de Dieu, on vit dans la nouvelle maison. Puis il y a des fois où on est rattrapé par nos vieilles habitudes, puis hop, on retourne dans l'ancienne maison. Et en fait, c'est ça notre défi, c'est d'apprendre à vivre toujours plus dans la nouvelle maison. En d'autres termes, le vieil homme doit mourir. Puis il n'aime pas ça. Parce que ça veut dire qu'on renonce à nos désirs propres, à notre égoïsme, pour entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Mais on a un chemin. Moi, je ne peux pas vous dire que je suis à 100% dépendante de Dieu. Mais je le suis plus qu'il y a 10 ans. Et j'aspire vraiment à ce que ce pourcentage augmente encore. Donc, on croit, et finalement, plus notre vieil homme meurt, plus ce sera facile d'entendre la voix de Dieu, et par conséquent, de développer notre foi. Puisque notre foi, elle grandit et elle vient de ce qu'on entend de sa bouche à lui. Dans la pensée hébraïque, je vous disais que connaître, c'est expérimenter, mais c'est aussi quand je crois, c'est que je mets en pratique, sinon je ne crois pas. Et là, j'aimerais vous raconter une autre histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire d'un petit groupe de personnes qui se trouvent au bord d'une falaise. Et puis, cette falaise, elle est reliée par un câble à une autre falaise. Et puis, il y a une brouette avec une personne qui est très, très agile pour passer avec la brouette sur le câble. Et la personne pose la question, est-ce que vous pensez que je suis d'accord, est-ce que je peux traverser ce fil avec la brouette en poussant la brouette? Alors tout le monde dit, oui, bien sûr. Ok, est-ce que vous pensez que je suis capable de faire ça avec un chat qui passe par là? Ah oui, t'es tellement doué, tu vas y arriver. Est-ce que tu penses que je suis capable de le faire avec une personne? Ah oui, si tu arrives avec un chat, tu arrives. Puis après, il s'adresse personnellement à quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord? Toi, monter dans la brouette. Mais la foi, c'est ça. On croit en théorie. Ah oui, tout le monde est capable d'aller dans cette brouette. Il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de moi, écoute, tu ne veux pas y aller à ma place. Mais c'est une image permanente. Hein. On croit réellement quand on a mis en œuvre notre foi. Je laisse encore résonner la parole dans Jacques. Je vous laisse peut-être les références pour commencer, puis après je vous laisse écouter. Hein. Donc c'est Jacques 1, 22 à 25. Jacques 2, 17. Et Jacques 2, 22. Donc 22, 25, puis après 2, 17 et 2, 22.